4 heures. On va être un peu à la bourre pour terminer avant que la plupart commencent à partir, mais soit on arrêtera et on reprendra à la rentrée. On arrive vraiment seulement à la 14e heure de la Bible en 24 heures. Et la semaine dernière, on a parlé du fil rouge de la rédemption et on a montré que toute la Bible, en fait, Ancien Testament et Nouveau Testament, parler du sacrifice de Jésus pour racheter une humanité pécheresse. Là, on va se concentrer un peu plus pour présenter le Nouveau Testament. Et vous savez qu'entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre le prophète Malachi et l'évangéliste Matthieu, il s'est passé près de 400 ans de silence. 400 années qui ont été vécues par beaucoup de juifs comme un silence de jugement. Et c'est vrai que des fois, la chose la plus dure à supporter, c'est pas l'hostilité, c'est l'ignorance. Nancy et moi, on peut livrer des petits secrets, mais le traitement le plus dur, c'est lorsqu'on dit rien à l'autre. Et plutôt que de dire de bonnes choses ou de mauvaises choses, mais le silence peut être un traitement très difficile à supporter. Et c'est un peu ce que les Juifs ont ressenti. D'autant que, vous vous souvenez, le prophète Malachi avait dit qu'il trompait Dieu, il trichait avec Dieu parce qu'il ne lui apportait pas la dîme, ou il lui donnait il se contentait des bêtes de second choix. Et encore une fois, dans notre vie avec Dieu, si nous ne lui faisons pas la première place, il peut nous infliger le traitement du silence. On a l'impression qu'on peut lire la Bible, rien ne nous parle. En général, il est bon, et si on persiste, la communication reprend et on sent sa présence. Mais c'est toujours un moment difficile dans la vie que de se dire tiens, Dieu ne nous parle plus. Souvent, on n'en est même pas conscience parce qu'on est préoccupé ou occupé par d'autres choses. Mais c'est toujours un bon moment que de se dire, ça y est, Dieu reprend le dialogue, Dieu m'écoute et je peux lui parler. Sachant qu'il ne cesse jamais. Lorsque nous le sentons loin de nous, Jacques nous dit, c'est parce que nous nous sommes éloignés de lui. Ça, c'était la blague du couple aux États-Unis qui était dans leur pick-up truck, dans leur camion. Et aux États-Unis, les voitures sont plus grandes, donc il y a toujours 3 places à l'avant. Et il y avait le mari qui conduisait le camion et sa femme qui était à l'autre bout et qui disait, en voyant une voiture où justement l'épouse était visiblement appuyée contre le conducteur, si tu te rappelles le bon temps où on était si proches, et lui lui dit, mais je suis toujours au même endroit, au volant. Sous-entendu, c'est toi qui t'es éloigné. Refermons la parenthèse. Parlons de la période intertestamentaire. Donc ça représente à peu près 400 années. Il y a à peu près 6 périodes de l'histoire juive entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament, l'annonce de la naissance de Jésus-Christ. On sait qu'à la fin vers l'an 400 avant Christ, l'empire perse a été remplacé par l'empire grec avec l'avènement d'Alexandre le Grand en 334. Il y a une période où ce sont ces deux généraux. Il y avait Ptolémée en Égypte en 324 qui a pris le pouvoir. Ensuite, en 204, ça a été la période des Séleucides. Séleucus et Ptolémée étaient deux de ces 4 généraux qui se sont divisés son empire. En l'an 165, il y a eu la période de ce qu'on a appelé les Maccabéens, ou les Maccabées, qui correspondait à la profanation du temple par Antioche Épiphane, Et à partir de l'an 63 avant Christ, c'est la puissance de l'Empire romain qui s'est fait ressentir en Palestine, en terre promise, jusqu'à la naissance de Christ en l'an 4 avant Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce que Christ est né avant Christ? C'est parce qu'on a essayé de corriger la datation de sa naissance. Et on pense qu'en fait il est né un peu plus tôt que l'on l'a pensé au départ. Donc on voit la décadence de l'Empire grec, de l'Empire perse d'abord, de l'Empire grec, de l'Empire égyptien, syrien, et puis la montée en puissance de l'Empire romain. On peut comparer un peu les époques. Les grands chefs religieux ou influents, les grands porte-paroles de Dieu avant, vers 400 avant Jésus-Christ, c'est Ezra, c'est Néhémie, c'est le prophète Malachi. Au début du Nouveau Testament, ça va être Jean-Baptiste, et puis Jésus, bien sûr. Le monde qui régnait en 400, on a dit, c'était déjà la Perse. Maintenant, ça va être donc un empire oriental. Maintenant, avec Jésus, ça va être l'époque de l'Empire romain, l'Empire occidental. Il y avait, à l'époque de la fin du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, il n'y avait pas spécifiquement de groupe bien défini qui se battait ou qui se disputait le pouvoir ou le pouvoir religieux. Par contre, avec le début du Nouveau Testament, là, on va avoir toute une série de groupes qui vont se disputer soit l'influence politique, soit l'influence religieuse. Il y avait, vous vous souvenez, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, et on en reparlera un peu plus tard. À l'époque de la fin du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, pardon, c'était la langue parlée, c'était l'hébreu. On arrive maintenant au Nouveau Testament, la langue parlée, c'est le grec, mais aussi l'araméen, qui est un dialecte hébraïque parlé en terre promise, en terre sainte. Avant la fin de l'Ancien Testament, on se réunissait dans le temple pour l'adoration de Dieu. À la fin, au début plutôt du Nouveau Testament, le lieu de louange, le lieu de culte, ça va être le temple, mais aussi les synagogues. La synagogue, vous vous souvenez, c'est un reste, c'est un souvenir de la période d'exil, exil à Babylone et en Assyrie. Synagogue, c'est un mot qui fait penser aux Juifs, et pourtant c'est un mot grec qui veut dire se réunir. Venir tous ensemble. C'est l'endroit où Jésus va souvent parler, mais on sait qu'il allait encore au temple. Le temple qui va être détruit en l'an 70. On a parlé justement à la période de la succession d'Alexandre le Grand, le grec était devenu la langue parlée dans le monde entier de l'époque. Et vous vous souvenez que les juifs qui habitaient notamment en Égypte, à Alexandrie, ne connaissaient plus la langue hébraïque. Et donc, on a fait traduire la Bible, l'Ancien Testament, par 72 érudits qui connaissaient des Hébreux, qui connaissaient très bien la langue grecque et la langue hébraïque, et ils ont donné cette traduction de l'Ancien Testament en grec, qu'on appelle la Septante pour dire 70, souvent abrévié par LXX, la notation romaine. Et on a dit que c'était quelque chose qui était indéniable au point de vue historique et qu'on ne pouvait pas dire que les prophéties qui étaient décrites dans la Septante n'avaient pas été vraiment prononcées avant leur réalisation. Donc il y a une preuve de l'historicité des prophéties qui vient de l'existence de cette traduction des Septante. C'était devenu en fait la Bible des Juifs, et en réaction à cela, il y a un concile au nord d'Israël en l'an 90, donc après la destruction de Jérusalem, le concile de Jamnia. Et là, on a commencé à faire une autre traduction de la Bible à partir des textes bibliques, des textes hébraïques. On l'a consigné en changeant l'écriture, parce qu'avant, l'hébreu, c'est une langue consonantale, c'est-à-dire qu'il n'y a que des consonnes. On sait quelles sont les voyelles à mettre par habitude, mais ce n'est pas marqué dans le texte. Et là, les massorètes, ça vient du mot qui veut dire transmission, ont ajouté des points voyelles au-dessus des lettres, des consonnes de l'hébreu. Ce texte a été en fait le seul qu'on avait, dont on avait des copies de manuscrits. Il a fallu attendre, vous en souvenez, les années 50, 1950, pour que, en retrouvant les manuscrits de Qumran, on retrouve des textes qui prédataient Jésus-Christ. Et ce qui est formidable, c'est de voir que la transmission entre 100 ou 150 ans avant Jésus-Christ et 900 ans après lui, on pouvait voir que les textes n'avaient pas varié, ou s'il y avait quelques petites différences, c'était moins de 1% ou 2%, et ça ne changeait en rien du tout, les grandes doctrines, les grandes vérités enseignées par la Bible. On avait parlé de la façon dont la Bible avait été ensuite traduite par Jérôme, sous le nom de Vulgate en latin. C'est à partir de cette traduction qui signalait les apocryphes en disant que c'était des livres qui étaient dans la Septante, mais qui n'étaient pas des livres inspirés. C'est à partir de la Vulgate de Jérôme que les premières traductions ont été faites aussi bien en anglais qu'en français. Et puis il y a eu un retour au texte. Alors là, on était passé pour le Nouveau Testament au texte grec. Un des grands textes qui a été utilisé, c'est ce qu'on appelle en latin le textus receptus, ou le texte reçu, qui se basait sur des collections de manuscrits qui étaient en grande partie ceux qui venaient de la région de Byzance ou Constantinople, donc Istanbul actuel. Et ça, c'était les manuscrits byzantins, par opposition aux textes qui venaient de la région d'Alexandrie, les manuscrits alexandrins, qu'on a retrouvés plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que les textes alexandrins sont généralement plus âgés que les textes de Byzance, byzantins, mais ça ne veut pas dire pour autant, comme on pourrait le supposer de prime abord, qu'ils soient plus proches de l'original. Et c'est un peu un débat maintenant sur la Bible, notamment dans le monde anglo-saxon, sur la King James Bible, et la controverse qui est autour de ce texte, pour dire qu'en fait le texte qui est à la base de la King James, de la Bible du roi Jacques, est en fait plus fiable que des textes récents. Alors le texte récent, c'est ce qui a permis notamment de traduire ce qu'on appelle la NIV en anglais, New International Version, ou bien la NASB, la nouvelle New American Standard Bible. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Second et les Darby s'appuient aussi sur les textes byzantins, mais il y a un mouvement maintenant pour revenir plus aux textes reçus, textus receptus, et aux États-Unis notamment il y a la New King James Bible, la NKJB. Et donc il y a, alors c'est Pour le commun des mortels, c'est pas très important parce que le message est là, mais les textes alexandrins, généralement, sont moins nettement en faveur de la divinité de Jésus-Christ. Et on pense qu'ils ont été influencés, par ce qu'on a appelé, en étudiant le livre de Pierre, de Jacques, la doctrine des gnostiques, qui disait qu'en fait, il fallait atteindre une certaine gnose, une connaissance intellectuelle, spirituelle supérieure pour faire partie des sauvés. Et cette connaissance, c'était un peu un monde un peu secret. Et en même temps, il faisait une distinction entre la connaissance et la vie pratique, parce que pour eux, l'esprit était la chose qui nous permettait d'avoir une relation avec Dieu, mais que l'esprit ne pouvait absolument pas être en accord avec notre corps, notre chair, parce que notre corps, notre chair, c'est des instruments de péché. Donc il y avait une distinction, et à la limite, c'était pas important si on continuait de pécher dans le corps, parce que de toute façon, c'était presque deux mondes à part. Il y avait le domaine de l'esprit qui nous permettait d'avoir cette connaissance supérieure de Dieu, et puis le corps qui, lui, pouvait pécher comme bon lui semblait. De toute façon, il était pourri, et dès le début, dès la fin plutôt de la vie de Jésus et le début de l'Église, il y a eu cette doctrine que les apôtres ont combattu, notamment dans les épîtres, celle de Pierre, celle de Jean. Il n'a pas fallu longtemps avant que des mensonges s'infiltrent dans la communauté chrétienne. Voilà, ça c'est la façon dont, encore une fois, on avait déjà vu cette transmission de la Bible. J'ai dit qu'on allait revenir un peu sur les différents groupes. Avant, c'est vrai que lorsqu'on entend parler de différents textes, différentes sources, comme je vous l'avais dit, il y a une science qui permet de reconstituer avec une grande fiabilité l'original d'un texte à partir d'une variété de copies. Et je vous avais dit que c'était un exercice qu'on pouvait faire. Quelqu'un écrivait un texte, et puis vous étiez chargé de le recopier à la main. Et en fonction des erreurs que vous faisiez, plus il y en avait, mieux ça allait. On pouvait reconstituer l'original. Et ça parce qu'en fait, il y a des règles de bon sens qui disent que quand quelqu'un ne comprend pas un texte, il a tendance à le simplifier. Donc si vous avez deux passages et qu'il y en a un qui est très compliqué et puis l'autre qui est vraiment simplifié, le plus fiable, c'est généralement le plus compliqué. Lorsque vous avez des phrases qui sont répétées dans un texte original, un danger, c'est qu'on lise la première occurrence, la première manifestation de ce texte, et au lieu de continuer à recopier à la suite, si nos yeux retombent sur la même chaîne de caractères ou de mots un peu plus bas, on va penser qu'on n'est pas là-haut mais qu'on est là. Et donc tout un passage peut avoir disparu. Et étant donné qu'il y a plusieurs personnes qui copient, généralement les erreurs se font à des endroits différents. Mais en utilisant ces principes, on arrive avec une très grande fiabilité, vraiment fantastique, à reconstituer l'original. Vous savez que on a dit que Dieu avait mis en filigrane. On dit filigrane ou filigramme? What a mark. Crâne, hein? Ouais, je crois. Donc, dans la trame du papier, on peut voir la signature de Dieu. Et on a dit que Dieu étant en dehors du temps, l'une des façons dont il le fait, c'est bien sûr de signer des prophéties qui nous émerveillent. Mais on a aussi parlé ce qui a été un peu trop populaire à mon goût, les codes secrets de la Bible. Le fait qu'à des distances équidistantes, donc on prend tous les 50 caractères, on va trouver peut-être des mots intéressants. Alors c'est plus facile de trouver après coup que de dire avant qu'on va trouver des choses. Mais ça, indépendamment de ça, vous avez sans doute entendu parler de la présence fréquente du nombre 7 dans la Bible. En étudiant l'Apocalypse, on a vu qu'il y avait une lettre qui était écrite aux 7 églises, qui avait 7 sceaux, qui avait 7 bols, qui avait toute cette structure de 7 est complètement intégrée dans le livre de l'Apocalypse, mais aussi dans d'autres passages. Et on parle des fois de... On sait que le sabbat, c'est le septième jour. Qu'avec Joseph, il y a eu 7 années de vaches maigres, de vaches grasses. 7 années de famine, 7 années de vaches maigres. Qu'il y avait 7 prêtres, 7 trompettes qui ont dû marcher autour de Jéricho. Que tous les 7 ans, il y avait une année de sabbat. Le roi... Plutôt le haut fonctionnaire Naaman a dû se laver 7 fois, se tremper 7 fois dans le Jourdain. Et donc le nombre 7, on a dit que c'est le nombre de ce qui est complet, le nombre de ce qui est parfait au sens que c'est achevé, terminé. Et certains chercheurs, dans les années 1900, on fait des recherches en ce sens et on décidait qu'il y avait une structure heptadique, c'est-à-dire une structure basée sur le chiffre 7 dans la Bible. Et c'est notamment un mathématicien russe, Ivan Panin, qui avait dû quitter la Russie parce qu'il avait comploté contre le tsar. Il avait étudié en Allemagne et puis il avait... fini aux États-Unis, où il avait fait un doctorat en maths à Harvard. Et quelques années plus tard, il s'est converti, il était agnostique, il s'est converti à la foi chrétienne. Parce qu'il avait trouvé, justement, en regardant les lettres de l'hébreu et du grec, il avait trouvé cette structure, ce qu'il appelait la structure heptadique. Et il a passé 50 ans à étudier cette théorie, ou plutôt c'est faire des recherches dans ce domaine, sans ordinateur. Il a publié près de 43 000 articles, où il a trouvé 43 000 occasions où on pouvait vérifier cette structure basée sur le chiffre 7. Et... notamment, si on regarde dans le Nouveau Testament, les premiers versets de l'Évangile de Matthieu, c'est le sujet de la généalogie de Christ. Et il se trouve que au XIIIe siècle, on a fait des versets dans la Bible, et là il y avait 17 versets. Mais là il a regardé dans ce texte, il a vu que le nombre de mots qui étaient des noms, c'était 56, donc un multiple de 7. L'article « le » en grec, lui aussi apparaît 56 fois. Dans la première, il y a deux passages dans cette généalogie, versets 1 à 11 et 12 à 17. Dans la première partie, le nombre de mots en grec, c'est 49, encore un multiple de 7, pas 48 ou 50. De ces 49 mots, ceux qui commencent avec une voyelle, c'est le nombre, il y en a 28, 7 fois 4. Donc le nombre qui commence par une consonne, c'est 21, 7 fois 3, c'est dérivé du premier. Maintenant, il y a des mots qui sont en nombre de multiples de 7, mais le nombre de lettres dans ces 49 mots, c'est aussi un multiple de 7. C'est 38 fois 7. Il y a les voyelles, il y en a 140, 7 fois 20. Et bien sûr, il y en a des consonnes, il y en a un multiple de 7 aussi, il y en a 126. Et ainsi de suite. Et il trouve des... Le nombre d'hommes mentionnés, c'est 28. Il y en a 7 fois 4. Leur nom arrive 56 fois, parce que souvent ils disent un tel engendra un tel, et un tel, donc c'est moins spectaculaire. Il y a trois femmes qui sont mentionnées dans la généalogie de Jésus. Vous savez lesquelles ? Tamar, oui. Elle est pas mentionnée là. Il y a dans Matthieu, il y a Ruth et puis Rahab, voilà, oui. Et dans ces trois noms, le nombre de lettres, c'est 14, 7 fois 2. Il n'y a qu'une ville qui est mentionnée, c'est Babylone en grec, elle comporte 7 lettres. Alors, on peut dire, bon, mais on peut prendre n'importe quel texte et trouver ça. Mais si vous vouliez écrire un petit texte comme ça, c'est pire que des mots croisés pour que ça tienne et que ça marche, qu'il y ait des mots multiples de 7, que chaque mot soit, pas que chaque mot, mais que toutes les lettres de ces mots soient un multiple de 7. En fait, on s'aperçoit que la probabilité pour que ça arrive par hasard est assez réduite. C'est ce qu'on appelle cette science des lettres, parce que vous savez qu'en hébreu comme en grec, il n'y avait pas de chiffres arabes. Donc les chiffres, c'était une valeur qui était assignée, attribuée à chaque lettre. Alpha, c'était le nombre 1, bêta, c'était 2, et ainsi de suite. Et on peut donc non seulement compter les lettres, compter le nombre de mots, le nombre de voyelles, etc., mais on peut aussi compter la valeur en chiffres de certains mots. Le mot apocalypse, par exemple, c'est 7 que multiplie 6, que multiplie 6, que multiplie 6. On retrouve peut-être 7 fois le nombre 666, mais ça, je sais qu'au bout d'un moment, on se dit, mais à quoi bon ? D'autant que la critique la plus sérieuse, il y a des passages, notamment, il utilise ce chercheur utilisait cette méthode pour valider la fin de l'évangile de Marc, qui souvent se trouve entre crochets pour dire qu'il est dans certains manuscrits mais pas dans tous, on n'est pas sûr de son inspiration, de ce qu'on doit le mettre ou non. Dans la Bible, à la colombe, il est indiqué entre crochets. Et il utilisait aussi des tas de statistiques basées sur le nombre 7 pour montrer que ça ne pouvait pas être un hasard. Le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est que suivant les manuscrits et les versions qu'on utilise, il n'y a pas nécessairement exactement le même nombre de mots pour ce passage. Pour la généalogie de Jésus, c'est direct. Hein, il y a un tel engendra un tel et il n'y a pas de... Mais pour d'autres passages sur lesquels il applique sa théorie, on peut lui reprocher de dire qu'il a utilisé telle version qui favorisait son... Et lui, sa conclusion, ça serait de dire, mais c'est justement parce que c'est la bonne. Alors ça, je vous laisse en juger vous-même. Mais c'est un élément qu'on trouve dans, notamment en ce qui concerne le grec, dans tout le Nouveau Testament. Maintenant, on va revenir aux différents groupes qui bougeaient à l'époque où Jésus est arrivé sur la planète. Le judaïsme était représenté, on a dit, par les scribes notamment. Alors les scribes, c'était un peu les traditionalistes. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces scribes ? Ils étaient les copistes des écritures de l'Ancien Testament et ils considéraient ça comme un sacerdoce, un appel de Dieu. Ils avaient des cérémonies d'ablution manuelles, c'est-à-dire qu'ils se lavaient les mains de façon très religieuse et très efficace. Ils utilisaient les meilleurs instruments, ils utilisaient les meilleurs supports graphiques. Le velin Vélin avait succédé au papyrus, au papier issu des roseaux des bords du Nil. Maintenant, on utilisait des peaux d'animaux et on leur doit en fait la transcription de la Bible, de l'Ancien Testament. On avait évoqué l'idée que c'était tellement sérieux pour eux qu'ils mettaient des signes à côté des lignes pour savoir par exemple quelle était la lettre qui était au milieu de la phrase ou la lettre qui était au milieu d'une page. Donc ils faisaient la recherche sur l'original et après une fois avoir fait la copie, ils allaient vérifier que ça marchait sur la copie. S'il y avait une erreur sur la copie, ils ne corrigeaient pas la copie, ils la jetaient. Les Juifs ne détruisaient pas les copies de la parole de Dieu qu'ils avaient, par respect justement pour cette parole. Mais au bout d'un moment, ces écrits devenaient trop usagés, on ne pouvait plus lire ou ils étaient abîmés. Et là, au lieu de les détruire, ils les cachaient dans un endroit, ils les enfermaient quelque part. Du Caire, donc on a pu retrouver des anciens manuscrits qui étaient des manuscrits jetés après un grand usage. Et ça nous a permis de mieux comprendre la façon dont ces scribes travaillaient. Ils faisaient non seulement office de copistes, mais parce qu'ils s'attachaient à tout ce qui était archives, etc. C'était un peu les hommes de loi de l'époque. C'était les avocats, les archivistes. Et donc c'était un premier groupe. Un autre groupe, c'était, on en a souvent parlé, c'était ce qu'on appelait les séparés, les pharisiens. Eux, c'était les légalistes. Ils avaient bien commencé, dans le sens où ils voulaient vraiment connaître la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Ils avaient multiplié les synagogues pour pouvoir enseigner la Bible, la répandre. Puis vous savez qu'ils portaient des versets bibliques dans des petites bourses ou des petites boîtes qu'ils appelaient des phylactères. Ça vient d'un mot qui veut dire petit conservé. C'est le même mot que prison. C'est un peu comme s'ils emprisonnaient, ou c'est la même racine que le mot prison en grec. Et ils les portaient sur leur front, sur leur poignet. Et aujourd'hui, si vous allez sonner à la porte de juifs orthodoxes, vous verrez qu'ils ont des petites barre qui donne un verset, donc cette façon de montrer ce qui correspondait à une prescription biblique, de vraiment porter la parole de Dieu sur leur tête, sur leur front, sur leur poignet. Ils avaient un souci d'enseigner et de passer l'enseignement de la Bible à leurs enfants, qui est tout à fait louable, mais très rapidement ils ont influencé la religion qui venait de Dieu en faisant une religion des hommes, en ajoutant à la loi de Moïse plus de 600 règles de vie, notamment essayant de redéfinir ce qui était déjà prescrit par la loi de Moïse, comme respecter le sabbat, on en a parlé, est-ce que ça veut dire de ne pas faire de travail? Donc pas faire de travail, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus marcher? Quand on marche, on se porte soi-même. Donc ils avaient dit, bon ben jusqu'à 500 mètres, c'est bon, mais au-delà, si 501 mètres, ça va être du travail. C'est bon. Donc, le poids qu'on pouvait verser, qu'on pouvait tenir, par exemple, du sel jusqu'à telle quantité d'ingrédients, ça allait, mais si c'était au-delà, c'était du travail. Et c'est pour ça que Jésus leur disait qu'il mesurait les épices et qu'ils étaient prêts, en fait, à s'étouffer avec une mouche, pour dire qu'ils avaient perdu tout discernement spirituel. Et non seulement ils mettaient ce poids sur eux-mêmes, mais ils l'imposaient à ceux qui les entouraient. On dit qu'il y avait sept types de pharisiens. Ils s'appelaient ce qu'on appelle encore des fois les juifs hassidim, c'est-à-dire les saints, les purs, les parfaits. Il y en avait qui on appelait les pharisiens ensanglantés, parce que pour ne pas avoir de tentation, souvent dans la rue, ils marchaient en fermant les yeux. où ils se cognaient la tête. Ils mettaient même des œillères pour éviter d'être tentés par l'adultère. Donc c'était vraiment des légalistes. Mais en même temps, il y avait de bons pharisiens. Nicodème était un pharisien, mais un pharisien sincère qui cherchait à comprendre Jésus et qui il était. Paul lui-même était un pharisien des pharisiens. Il avait ce zèle de persécuter la nouvelle foi qui rejetait ce légalisme. Ils avaient, donc encore une fois, ils avaient bien commencé, mais à la fin, même ils se sont attirés la colère de Jésus qui les appelait des hypocrites quelque part. Il disait qu'il fallait fallait que les disciples se gardent du levain des pharisiens et des sadducéens. Qui étaient les sadducéens? Eux, leur nom venait du mot Sadoc. Zadok, Tzedek, Melchizedek, c'est-à-dire le mot qui veut dire juste ou saint. C'était les descendants du grand prêtre Sadoc ou Zadok, dont il est question dans 2 Samuel 8:17 avec Abiathar. C'était eux qui, de ce grand prêtre, qui étaient descendus maintenant la famille des prêtres. Non seulement ils devaient être des lévites, mais ils venaient de cette branche. Et jusqu'à l'époque des Maccabées, donc c'est ces personnes dont on a déjà un peu parlé, c'est eux qui vont donner les grands prêtres. Ce sont les fils de Sadoc, dit Ézéchiel, qui parmi les fils de Lévi s'approchent du Seigneur pour le servir. Donc c'est eux qui s'occupaient du service au temple. Ils venaient parce qu'ils étaient dans ce parti de prêtres, de grands prêtres, ils formaient un peu une classe riche, et leur influence était au niveau du culte et de la liturgie. C'est eux qui contrôlaient en fait le temple. Au niveau de leur doctrine, on pourrait considérer que c'était un peu les libéraux de l'époque. Au sens où ils ne respectaient comme livre inspiré que les 5 premiers livres de la Bible, la Torah, les livres de Moïse, et ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas aux anges, et en fait ils rejetaient vraiment le surnaturel, et ils se contentaient de gérer le temple et d'être rationalistes. Ils étaient vraiment opposés aux pharisiens qui, eux, croyaient à ces vérités de la résurrection et d'autres choses, même s'ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Ils respectaient l'ensemble de l'Ancien Testament. Les pharisiens et les sadducéens ne s'aimaient pas beaucoup, et pourtant on voit qu'ils s'alliaient pour lutter contre Jésus, qui était l'ennemi de tout le monde, du moins des religieux établi en place. Il y avait un autre groupe qui s'appelait les Hérodiens, du nom du roi Hérode. Eux, ils étaient en faveur du statu quo, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas que ça change. Ils étaient originaires, on les appelait les Idouméens, ça vient de Édom, et ça c'est en fait des descendants du frère de Jacob, Ésaü, et eux ils s'étaient, bien qu'ils soient pas juifs à proprement parler, mais ils s'étaient convertis au judaïsme, et ils avaient gagné la confiance de l'occupant romain. Et donc, c'est ainsi que le plus célèbre d'entre eux, Hérode et ses fils, sont devenus des hauts fonctionnaires régnant à la botte des Romains, régnant sur les Juifs, qui les détestaient pour être de cheville avec l'occupant romain. Hérode, on le sait, avait aidé à la reconstruction du temple, mais les Juifs ne l'aimaient pas pour autant. Hérode, c'était un roi maudit. Tout le monde détestait Hérode, sauf ce petit groupe d'Idoméens qui avaient tout à gagner de ce que rien ne change, puisque c'est eux qui avaient le pouvoir politique autant qu'on pouvait l'avoir à l'époque des Romains. Contre eux, il y avait les Zélotes. Ça vient du mot zèle. Eux avaient un grand. C'était des Juifs qui se réclamaient de toute la parole de l'Ancien Testament. Et eux, c'était un peu les terroristes de l'époque. C'était les activistes politiques. Ils avaient de la haine pour les Romains. Et c'est eux qui vont se combattre à Massada contre les Romains jusqu'en 73. Et pratiquement, les 1000 combattants qui restaient vont préférer se suicider plutôt que de se rendre et être fait prisonnier par les Romains. Donc ça, c'était les Zélotes, les insurgés. Il y en avait un autre groupe qu'on a appris à mieux connaître avec les découvertes des grottes de Qumran. C'était les Esséniens. Eux, c'était les isolationnistes. Leur devise aurait pu être « Vivons heureux, vivons cachés ». Leur façon de voir les choses, c'est que tout allait si mal qu'il allait mieux, s'isoler pour vivre sa foi, se cacher des occupants, des collaborateurs, etc. Et c'est pour cela qu'ils se sont installés sur les rives de la mer Rouge. On a retrouvé des livres expliquant leur mode de vie dans les découvertes des grottes de la mer Rouge, des grottes de Qumran. Et bien sûr, grâce à eux, on a pu retrouver ces manuscrits de la mer Morte avec des textes comme un grand nombre de textes bibliques anciens qui prédataient de 900 ans, dans certains cas, les plus récentes copies que l'on avait de ces textes, comme le livre d'Ésaïe dans son intégralité. Donc c'était peut-être la plus grande découverte archéologique, ou du moins archéologique chrétienne de l'histoire de l'humanité, les grottes de Qumran. Les Esséniens, certains pensent que peut-être Jean-Baptiste était un Essénien. C'était un peu aujourd'hui l'équivalent de ceux qui pensent que ça va être la fin du monde et qui disent qu'il vaut mieux aller se retirer dans les bois et être sûr d'avoir assez de nourriture. Et c'était un peu leur optique, ne plus se mêler à la vie corrompue de leur époque. Les Maccabées, donc, c'était eux qui avaient mené une révolte contre Antioche Épiphane, numéro 4, qui avait corrompu le temple à Jérusalem en faisant adorer une truie sur l'autel qui était réservé dans le Saint des Saints. C'était vraiment le sacrilège le plus terrible qu'on puisse imaginer, parce que la viande de porc est une viande impure. Mais on sait aussi que certains voient en Antioche 4 Épiphane un type, une préfiguration de l'Antéchrist qui va vouloir se faire adorer dans le temple reconstruit à Jérusalem à la fin des temps. Ce sont donc les Maccabées, dont l'histoire est racontée dans deux livres, 1 et 2 Maccabées, deux livres qui sont très intéressants d'un point de vue historique, même s'ils ne sont pas considérés comme étant inspirés et ne font donc pas partie du canon. Il reprit en 165 avant Christ, ils reprirent le temple qui était devenu à ce moment-là un sanctuaire de Zeus, le dieu des dieux mythologiques des Grecs, et ils le reconsacrèrent au dieu d'Israël. Et ça, c'est l'origine de la fête de Hanouka. Hanouka qui en ce moment tombe à peu près vers la période de Noël. Et le mot Hanouka, c'est ce que j'espère qu'on pourra faire en début septembre, ça veut dire inauguration, simplement. Donc ils avaient inauguré une nouvelle fois le temple. Un des principaux chefs de cette révolte, c'était Simon Maccabée. Donc c'était une famille de prêtres et de patriotes et de juifs croyants qui voulaient se battre contre la profanation du temple. Mais lorsqu'il s'est agi de leur succession, il y a eu des disputes et c'est le général romain Pompée qui a pu se rendre maître d'eux et du pays en 63 avant Jésus-Christ. Donc tous ces groupes, ça représente un peu le terrain dans lequel Jésus-Christ est arrivé. Quelque part, on se dit, pourquoi Dieu a-t-il choisi ce moment dans toute l'histoire de l'humanité? En même temps, on sait que rien n'est fait au hasard par Dieu. On sait qu'il y avait à l'époque, il y avait la Pax Romana, il y avait la langue grecque qui était parlée dans tous les pays civilisés. Il y avait une relative sécurité pour voyager sur des vias romaines ou des voies grecques et même dans le transport maritime. En fait, le moment était propice pour que, à partir du Moyen-Orient, à partir d'Israël, la foi chrétienne puisse se répandre. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait peut-être encore plus facile, mais Dieu avait ses raisons et toujours est-il que c'est au bout de 400 ans que finalement un dénommé Zacharie a reçu, et ça on va commencer à voir ça la semaine prochaine, on va commencer à attaquer les évangiles. Alors souvent on pense que le Nouveau Testament, c'est les évangiles, ce qu'on ne connaît pas très bien. Bien sûr que c'est beaucoup plus que les évangiles. Il y a des livres historiques, donc les évangiles, le livre des actes. Et puis il y a toutes les lettres qui étaient destinées à circuler entre les églises, à être lues pendant les réunions, pour continuer l'enseignement que Christ avait donné à ses disciples, ce qui est raconté dans les quatre évangiles. Le Nouveau Testament, son nom vient de quoi? C'est mal posé comme question. Est-ce que vous vous souvenez du prophète qui a parlé du Nouveau Testament? Pardon, j'ai pas entendu. Oui, dans quel passage? Jérémie 31, deux fois. Où c'est Dieu qui parle par la bouche de Jérémie. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Donc, il était question d'une alliance nouvelle que Dieu allait mettre et établir avec son peuple. Et on sait que le mot « alliance nouvelle » ça a été traduit en grec par « testament ». Testament, ça nous fait toujours penser à une alliance après la mort. Je lègue telle chose à telle personne. Mais une meilleure traduction que testament, Nouveau Testament, ce serait la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc ce terme de Nouveau Testament, il a son origine bien sûr dans l'Ancien Testament. Les quatre évangiles, il y en a, on les groupe souvent par 3 et 1. Il y a l'évangile, les évangiles synoptiques qui ont la même vision des choses, on pourrait dire, parce qu'ils rapportent à peu près les mêmes événements. C'est Matthieu, Marc et Luc. Et puis l'évangile de Jean a beaucoup de choses un peu différentes, et c'est vraiment là un évangile qui insiste sur la divinité de Jésus. On a dit que Matthieu insistait sur le fait que Jésus était le Messie promis, qu'il était le roi du royaume qui était proche maintenant, le royaume de Dieu. Marc, c'était le serviteur. Jésus-Christ apparaît comme quelqu'un qui est toujours en action, en train de faire du bien. Comme il dit dans le livre des Actes, Jésus allait de ci, de là en faisant du bien. Matthieu, Marc, Luc, c'est souvent l'insistance est sur le fait qu'il est le Fils de l'homme. Fils de l'homme qui est un terme qui fait référence à quel prophète? Très bien, on a vu dans Daniel qu'il était question d'un être comme le Fils de l'homme, parlant de Jésus-Christ ou parlant de Dieu qui vient sous la forme de Christ. Et puis finalement, Jean, c'est la divinité. Et dans Ézéchiel, dans l'Apocalypse, dans la Genèse, il est question de quatre êtres vivants, de quatre animaux. Il y a le lion, il y a l'aigle, il y a le veau ou le bœuf, et puis il y a l'homme comme animal. Ces quatre représentent quelque part, sont en correspondance avec les quatre évangiles, ce qui donne une dimension différente. Mais les trois premiers, qu'on appelle les synoptiques, décrivent beaucoup des mêmes événements, mais avec une optique différente. On y reviendra la semaine prochaine, Dieu voulant. Le livre des Actes, c'était probablement au départ la même chose que l'évangile de Luc, puisque c'est le même auteur. Et c'est plus que l'acte des apôtres, c'est plutôt les actes du Saint-Esprit. On y reviendra. C'est l'action du Saint-Esprit qui fait naître l'Église et qui anime les débuts de l'Église de façon spectaculaire et qui permet à la foi chrétienne de se répandre dans tout l'Empire romain de l'époque, donc le monde entier de l'époque pratiquement. Ça correspond à peu près aux 30 premières années de l'Église. Une chose que j'ai oublié de dire en parlant des textes de l'Ancien Testament, c'est que la plupart ont été écrits assez tôt dans l'histoire de l'Église, et la plupart ont été écrits par les apôtres ou par des personnes qui étaient avec les apôtres, comme Luc qui était avec Paul, Marc qui était avec Pierre. Et ça veut dire que ces textes ont été en circulation alors qu'il y avait encore des témoins vivants qui auraient pu contester, qui auraient pu s'opposer aux faits qui sont relatés dans ces textes. Mais ça n'a pas été le cas, parce que ces textes représentaient la vérité de ce qui s'était passé. Les actes des apôtres, on voit la transition entre Pierre, qui était le disciple, l'apôtre le plus influent, qui se fait remplacer progressivement par Paul, cet ancien pharisien qui, sur la route de Damas, a une rencontre fantastique avec le Seigneur, qui lui dit « Pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» et qui va lui montrer qu'il va devoir souffrir pour faire la volonté de Dieu. Il y a aussi un changement de Jérusalem, qui était un peu le centre de la foi chrétienne, jusqu'à Antioche, qui va devenir la base de mission de l'Église. Et de là, on va voir les voyages missionnaires de Paul. Et le fait que justement il y ait ces voyages, s'il n'y avait pas eu ces voyages, peut-être qu'on n'aurait pas toutes ces épîtres. Il y avait ces épîtres, ils écrivaient des lettres les uns aux autres pour se tenir en contact, s'encourager les uns les autres, et c'est toute la richesse du Nouveau Testament que d'avoir ces épîtres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean, de Jude. On n'est pas sûr de l'auteur de la lettre aux Hébreux, mais là aussi ce sont des gens qui connaissaient bien le Seigneur. Encore une fois, tous ces écrits sont considérés comme inspirés parce qu'ils ont, cette autorité apostolique. Ils ont été soit écrits par des disciples, soit par des apôtres, soit par des personnes qui étaient très proches des apôtres. Voilà, donc, ça c'est en quelques mots, comment on passe de l'Ancien Testament par cette période de silence où il se passe beaucoup de choses au niveau historique, au niveau lutte d'influence politique, pour arriver dans le monde où notre Seigneur Jésus-Christ a lui-même choisi de s'incarner à cette époque. Voilà. On va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Ok. Zoé, tu veux bien terminer par un mot de prière, s'il te plaît?